Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, place au débat des grandes voix à présent avec à mes côtés ce soir Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. Ravi de vous accueillir Guylaine.
Bonsoir.
Bonsoir. Et on commence donc avec la politique de contrôle des mesures sanitaires. Jean Castex en a parlé et on garde un œil évidemment sur la conférence de presse qui se poursuit. On vous en parlera s'il y a des annonces fortes qui arrivent dans la prochaine demi-heure. Mais ce que l'on sait, c'est que les contrôles auprès des Français sont renforcés pour vérifier les attestations et les droits de sortie. Alors contrôler plus, c'est bien, mais est-ce efficace? Et j'irai même plus loin, est-ce que ça n'est pas au final contre-productif dans un contexte déjà très fort de défiance? On écoute le Premier ministre.
Nous constatons dans certaines zones ou parties du territoire un respect encore insuffisant de ces règles. Après une première phase de nécessaire pédagogie, j'ai donné au ministre de l'Intérieur des consignes de fermeté et lui ai demandé d'accroître encore la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Paris, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles.
Voilà, on joue la peur du gendarme, a dit le Premier ministre. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire, Emmanuel Ducrot? Est-ce que ça ne risque pas, comme je le disais, de cristalliser encore un peu plus la colère et la défiance des Français?
C'est compliqué parce que quand on a alléger le confinement, c'est-à-dire dit bah, vous pouvez travailler un peu quand même, vous déplacer un peu quand même, aller chercher vos enfants un peu quand même. C'est compliqué de mettre des règles qui sont d'un coup beaucoup plus strictes pour les contrôles. Ça veut dire qu'on ne comprend plus très bien. On est dans un risque de perception d'un arbitraire du contrôle, avec des voix qui s'élèvent. Et effectivement, on voit bien que quand même, il y a une fatigue, une exaspération. Alors là, peut-être que les déclarations du jour qui laissent entrevoir quand même une vague lumière au bout du tunnel, ça rend les choses un peu plus supportables, mais je pense que c'est un outil qu'il faut vraiment doser avec beaucoup de prudence.
Et puis on respecte un peu moins les règles, c'est vrai, vous avez vu ce sondage qui est sorti aujourd'hui, 60% des Français disent avoir s'être un peu arrangé avec les attestations pour aller voir de la famille, pour aller voir un ami, ou pour sortir un peu plus, un peu plus longtemps que l'heure autorisée. Moi, il y a un mot qui m'a frappé aujourd'hui dans la déclaration de Jean Castex dans le journal Le Monde. Il a dit, ça n'est pas le moment de desserrer la bride, comme si c'était la bride. Vous comprenez l'expression, Guylaine? On a encore une fois l'impression d'infantiliser un peu les Français.
Ah non, mais moi j'ai toujours eu le sentiment que Jean Castex avait un côté proviseur de province des années 50. Alors les classes où les noms commencent par A et B, vous allez dans la salle 42, voilà, d'un ton monocorde, et finalement on ne suit pas. Il ne fait pas de politique. C'est une conférence de presse qu'aurait pu faire M. Salomon en fonctionnaire. Il est Premier ministre, chef de la majorité. Il doit répondre aux oppositions, à la grenière qui monte.
Et ça n'est pas ce qu'il fait.
Cela dit, vous avez raison de poser la question, est-ce que, compte du niveau de conscience, on peut mettre des sanctions plus sévères?
Le niveau d'effort qu'on a demandé aux Français depuis presque un an.
Là où il y a des sanctions fortes, il y a de la confiance. On dit toujours que ça se passe bien dans les pays du Nord. On cite l'Irlande en exemple. Mais les gens sont plus citoyens, etc. Oui, ils sont plus citoyens. Ils dénoncent le voisin dès qu'il y a quelqu'un qui va dans l'appartement. Et surtout, les policiers ont le droit de mettre des amendes qui vont jusqu'à 2500 euros et 6 mois de prison. Là, vous faites quand même très attention à pas avoir 5 attestations avec 5 heures différentes dans votre poche. Parce que, ça peut coûter très cher.
Ça peut coûter
là, 135
cher.
Euros, on se dit, bon, allez, je ferai attention si je prie, mais...
Et d'ailleurs, même les syndicats de policiers disent que c'est compliqué. On est déjà tellement sollicités, disent-ils, face à la menace terroriste, on leur demande même, paraît-il, d'arpenter les rayons de supermarché pour vérifier que les règles sont respectées entre les produits essentiels et non essentiels.
Michel Cotta. C'est pour ça que c'est une peur du gendarme plus affichée que réelle.
Oui.
C'est-à-dire,
mais
à la
est-ce
fois,
que ça ne risque
à
pas
la
de
fois, le gouvernement
ne
peut pas dire « Allez-y, on s'en fiche, on vous demande rien. » Parce que c'est quand même, effectivement, on est à un stade dangereux. Et à la fois, comme on le fait dans d'autres pays, arnaquer, affliger aux gens une pénalité de 3500 ou de 6 mois de prison.
On a même dit 10 000 euros à un moment d'amende.
Oui, ça paraît aberrant. Donc je trouve qu'évidemment, comme vous le disiez, ce n'est pas si commode et tout est dans l'équilibre. Et les équilibres.
On est toujours dans le même paradoxe, Emmanuel Ducrot. On dit qu'il ne faut pas infantiliser les Français et puis on finit par faire l'inverse.
Quand on dit tenir la bride, moi je trouve que c'est très infantilisant comme
c'est un très mauvais
discours.
Terme.
On parle de quoi? D'équitation ou de quelque chose comme ça? C'est pas très bien choisi. Moi personnellement, ces images de policiers dans les supermarchés qui contrôlaient les rayons, j'ai trouvé que c'était totalement déplacé. Il y a certaines préfectures qui ont communiqué sur ces images-là. Je me suis dit, on est quand même dans un moment où les gens ont l'impression qu'on leur serre la vis, qu'on restreint leur liberté. et par ailleurs, on a quand même une menace terroriste qui est quand même toujours là. Et avoir des policiers qui sont mobilisés pour aller voir si on vend des chaussettes et du mascara, c'est pas une très bonne idée. Enfin, c'est déplacé.
Alors, la confiance et la défiance vis-à-vis du gouvernement et de l'exécutif, on continue d'en parler dans quelques secondes. 18h39, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, on est toujours ensemble avec le débat des grandes voix. Michel Cotta, Emmanuel Ducrot de l'Opinion, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. On parlait du niveau de défiance juste avant la pause des Français. C'est vrai qu'on sent une colère sourde qui monte. Et vous disiez, à juste titre tout à l'heure, Guylaine, qu'il y a un moment très politique que le Premier ministre n'arrive pas à saisir.
Oui, bah, tout à fait, parce que bon, faut dire que la situation est extrêmement difficile. Le premier confinement, 91% des Français l'admettaient. Là, on est à 70 ou 75 selon les sondages. Pourquoi ? Parce que la règle n'est pas générale. Oui. Elle n'est pas pour tout le monde. Alors, c'est très dire de dire le couperet tombe pour, voilà, pour les petits commerces. Bah oui, 75% des Français font leurs achats dans les hyper. Il y a des tas de parties du territoire où il n'y a plus de petits commerces, il n'y a que l'hypermarché, donc on a privilégié l'hypermarché sur le petit commerce. Et imaginez qu'il n'y ait que le petit commerce, que tout le monde se précipite là, tout le monde dirait « quelle folie, on a assez le petit commerce ».
Avec des trucs de
mais une fois qu'on
même,
a fait ces choix...
Je ne sais pas si vous avez vu le reportage ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, où on apprend qu'à Saint-Étienne, par exemple, il y a un centre commercial géant qui s'appelle Style, 1600 places de parking, 70 000 mètres carrés de magasins. Il est ouvert en ce moment et il a contaminé, selon les estimations, à peu près 600 000 personnes. Donc on laisse des gens se contaminer dans les centres commerciaux et puis les petits commerces, on les laisse fermer.
Mais une règle, à partir du moment où elle n'est pas générale pour tout le monde, elle est forcément injuste. Mais même, pourquoi est-ce qu'on a le droit de passer le permis à 18 et pas à 16 et pas à 19 ? Vers toute règle, elle est fait à un moment, elle est stupide. Simplement, il faut que la personne qui l'a fait respecter ou qui l'a décidé doit l'assumer. Et l'expliquer et dire que chaque fois qu'on sort, on provoque un risque de contamination parce qu'on touche l'ascenseur, on touche la porte d'entrée, on prend un autobus, n'importe quoi. Donc il faut expliquer. Et là, on fait juste la comptabilité des morts, alors plus 40 ans, plus 50 ans, au bout de 5 minutes, tout le monde s'endort. Et d'ailleurs, tout a déjà été dit dans les journaux le matin.
Pardon,
franchement, comme acte politique...
Pardon de poser la question un peu cash, mais donc vous êtes en train de me dire qu'il n'a pas le niveau, Jean Castex, par rapport à l'enjeu qui est en train de se jouer en ce moment.
Je pense qu'effectivement, alors, d'une certaine façon, peut-être que pour Emmanuel Macron, il a une influence très importante, c'est-à-dire qu'il joue vraiment, pour la première fois, le rôle de paratonnerre. Généralement, bon, c'est vrai qu'Edouard Philippe était même plus haut que Emmanuel Macron dans les sondages, et au fond, ça, les présidents n'aiment pas ça. Lui, il joue vraiment pleinement son rôle de paratonnerre, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que quand, par exemple, on compare les prestations de Bruno Le Maire, qui sont toujours assez éclatantes, et toujours dans un environnement explicatif, pédagogique et mondial à la fois, c'est vrai que quand on les compare tous les deux, on se dit, il n'y a pas photo.
Alors, on parlait de perspective. Hein, le Premier ministre vient de le dire à l'instant. 1er décembre, c'est la clause de revoyure pour les petits commerces. Mais il dit d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'ouverture possible des bars et des restaurants après le 1er décembre. Ça, c'est une déconvenue aussi, Emmanuel Ducrot.
Pas pour les bars et les restaurants, parce que je pense que personne ne s'attendait à ce que les bars et les restaurants rouvrent. Enfin, on a clairement identifié que c'était des foyers de contamination. Ça paraît évident qu'ils ne rouvriraient pas. En revanche, pour le secteur du commerce et de la grande distribution, c'est vraiment une désillusion, parce qu'on leur avait promis une revoyure. Alors, ils ne pensaient pas qu'ils allaient rouvrir demain. Mais ils pensaient que peut-être la semaine prochaine, ils pourraient avoir des autorisations de rouvrir. C'est une énorme période pour eux, là, cette période. Cette période de novembre, c'est la période de tous les achats non alimentaires.
Avec
des fêtes
un moment
de Noël.
Très important qu'ils vont rater, le 27.
Le 27,
Black Friday,
c'est le Black Friday.
Et c'est évidemment les e-commerçants qui vont en profiter.
Alors, il faut quand même bien comprendre que la grande distribution s'est organisée pour faire elle-même de la vente en ligne. Elle n'est pas complètement hors du coup. Elle le fait aussi. Les grands distributeurs se sont organisés pour vendre leurs jouets en ligne. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une problématique de logistique et de stock. Les stocks de la grande distribution débordent et sont ras le plafond d'articles qui sont supposés être vendus d'ici à la fin du mois de novembre. Ouais. Et après, il y a le reste qui arrive. Le frais, le blanc, tout ça, c'est de la logistique. Ce sont des chaînes qu'on ne peut pas arrêter en appuyant sur un bouton.
Mais vous avez vu ce qui se passe à la différence du premier confinement. C'est-à-dire que cette fois, la grande distribution est profondément affectée avec la fermeture des rayons non essentiels.
Elle aussi,
Carrefour, Auchan vient d'annoncer du chômage partiel pour un tiers de ses
salariés.
Le printemps annonce la fermeture de 7 magasins.
Ça,
Guylaine
personne ne le fait de gaieté.
Évidemment, on vit une période quand même dingue. Je veux dire, vous regardez autour de vous, Genève, on pense que les citoyens sont disciplinés, que c'est une ville propre et bien organisée. C'est un des lieux de contamination les plus explosifs d'Europe. Donc, Il n'y a pas d'endroit où qui échappe. Londres a fait une autre stratégie, la Suède a fait une autre stratégie, et ils sont obligés de finalement faire du confinement. Partout, ça explose, et particulièrement en Europe. 40% des nouveaux cas sont en Europe, parce qu'il y a une population très dense. Donc on vit quand même un moment grave. Alors les gens disent, oui, ah, pour préserver la vie des vieux, on va nous demander de mettre des scaphandres, faire tout ça à nos libertés. Non, ce n'est pas que les vieux, c'est qu'est-ce qu'on dira le jour à la sortie d'un hôpital, on aura 50 personnes qui étouffent parce qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un truc de réanimation.
D'ailleurs, tous les gens qui ont été hospitalisés, qui sont allés en réa, disent « il faut le voir pour le croire ».
Voilà. Et donc, si on a une augmentation qui est exponentielle, il y a un moment, le pic, il devient plus acceptable par la population. Donc, c'est ça qu'ils veulent éviter. Ce n'est pas du tout pour préserver la vie des vieux contre les jeunes. C'est ridicule de dire ça.
La grande crainte de l'exécutif, c'est Bergame. Vous vous rappelez de ces images de Bergame? On avait vu des gens qui étaient dans les couloirs des hôpitaux. On avait dû mettre l'armée à disposition pour transporter les corps des personnes décédées. Ces images-là, elles sont traumatisantes. Et c'est absolument ce que l'exécutif veut éviter.
Vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi une ligne de fracture au sein du gouvernement. Bruno Le Maire, d'un côté, qui pousse pour soutenir les petits commerces.
Non,
et puis de l'autre côté, Véran et Castex.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est normal. Chacun est dans son rôle. Il y a une crise sanitaire et il y a une crise économique. Alors, le type qui est responsable de la crise économique, il dit desserrer un peu. Et ceux qui sont responsables de la crise sanitaire, ils disent non, on ne peut pas.
Mais à la fin, c'est le président qui tranche.
Pardon ?
À la fin, c'est le président qui tranche.
À la fin, c'est le président qui tranche. Donc, mais vous vous rappelez, dans la dernière, même la période du premier confinement, justement, il y avait déjà une espèce de fracture entre Édouard Philippe et le président de la République. Édouard Philippe était pour un confinement plus lent. Et là, au fond, Emmanuel Macron s'est un peu rendu et se rend aux raisons de ceux qui disent...
Ce qui est intéressant,
attention.
C'est qu'il y a deux lignes de lecture ce soir de cette conférence de presse. Soit on dit le gouvernement ne desserre pas la vis jusqu'au 1er décembre, ou soit on l'interprète en disant le 1er décembre, c'est le moment où il va desserrer la vis. C'est deux façons de voir les choses. Soit on est pessimiste, soit on est optimiste.
Il fallait peut-être donner un objectif, quoi. Parce que sinon,
sur la ligne de fracture entre ceux qui sont uniquement la problématique du nombre de malades de Covid et ceux qui sont sur l'économie. Moi, je pense qu'une des erreurs du gouvernement... C'est en septembre, ils n'en ont parlé que du plan de relance. Il n'y en avait que pour le plan de relance. Ils avaient dans la tête le chiffre formidable de croissance qui revenait. Et pendant ce temps, il y avait tout ce que disaient les scientifiques sur l'arrivée d'une deuxième vague auquel j'ai l'impression que le gouvernement était plus sensible à ce qui se passait sur le plan économique que ce qui se passait sur le plan sanitaire. Et c'est arrivé très vite et très fort.
Alors, on reviendra sur les annonces de Jean Castex à partir de 19h dans le journal. Je voudrais simplement, juste après la pause, dans quelques secondes, qu'on dise un mot, vous parliez de relance justement, qu'on dise un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui à Béthune, Bridgestone. À tout de suite.